Pascal est pas tenable ce midi.
Arrête, voyons.
T'as un défi ce soir en passant. Je veux que tu...
Je veux pas faire ça.
Parce que ce soir, tu seras sur la Grande Allée avec les autres festifs de la station.
Ouais.
Puis, va falloir que tu mettes notre chanson thème d'émission qu'on a fait jouer vers les alentours
de
11h.
Ça serait de la manipulation, là, faire ça à un DJ.
Est-ce qu'une femme sait manipuler?
Est-ce qu'une femme sait danser? Oui. Est-ce qu'une femme sait manipuler? Non. Elles sont manipulées.
Ah,
regarde, la première chose qui s'est passée, c'est que j'avais super froid, t'avais super chaud. On a fait un compromis.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas tenu ton compromis.
Pendant que tu ne regardais pas, j'ai baissé la température.
Voilà. Ouais. Tous les mêmes.
Ben, en fait, non. Tu sais, je t'ai raconté que
dans un gars et une fille, là, il y avait un petit arrière-voix là, qui disait tout le temps « tous des crosseurs ».
Ah ouais. Ben, moi, je suis pas de même. Mais bref, la plus vieille chez nous, la préfab, quand elle rentre dans sa chambre, mettons le vendredi soir, si elle trouve que la température n'est pas adéquate, elle a l'impression que si elle met le thermostat à 33, ça va réchauffer plus vite. Alors que ça ne réchauffe pas plus vite. Et Pascal,
c'était mon impression.
On a mis le studio à 24 degrés, ce qui faisait en sorte qu'on suait et on se demandait pourquoi on ne travaillait pas si fort que ça. Et j'ai découvert qu'elle a joué avec le thermostat. On ne touche pas au thermostat.
Mais ton défi de mettre notre chanson d'équipe à l'atelier, je trouve que c'est...
Je suis persuadé que tu es capable de le faire.
C'est quoi mon prix?
On parle demain 11h. Ce sera le plus beau prix que tu auras jamais eu de ta vie.
Hey, on parle non, dis de même, c'est dégueulasse.
On parle de la semaine québécoise de la paternité. Semaine québécoise de la paternité. Tu nous en as un peu parlé hier, Pascal.
Oui, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Honnêtement, sondage efficace. Ça nous a éclairé sur la nouvelle situation de la paternité et des séparations. Tu le sais, c'est un de mes sujets favoris, tout ce qui est en psychologie par rapport aux êtres humains, à comment est-ce que vous démontrez que vous aimez votre partenaire devant vos enfants. Puis malheureusement, des fois, ça ne suffit pas. Il y a séparation, mais il faut s'aimer assez quand même pour ne pas impacter les enfants.
Je ne sais pas depuis combien de temps existe l'organisme à qui on va parler dans les prochaines minutes. Mais moi, je me souviens que dans les années 80-90, on ne valorisait pas la paternité. Puis là, de plus en plus, on la valorise, cette paternité-là. Au même titre qu'on valorise la maternité aussi, parce que les mères sont aussi importantes que les pères à mes yeux. Et on a le plaisir de jaser avec Raymond Villeneuve, qui est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Merci d'être là. Combien de temps que ça existe, ça, le regroupement pour la valorisation de la paternité?
Notre premier salarié, c'est-à-dire moi-même, est arrivé en 2005. On est un petit organisme de quartier. Donc, ça fait un petit peu plus que 15 ans. Là.
Wow.
Ça fait quelques années qu'on fait des grandes campagnes à la grandeur du Québec. Là. Ouais.
Et pourquoi vous avez senti qu'on avait besoin de valoriser cette paternité-là?
Ben écoutez, un petit peu comme vous le disiez, tu sais, parce que dans à cette époque-là, quand on parlait des pères, souvent c'était plutôt négatif. Donc on parlait des problèmes, on parlait de violence conjugale, d'abus, d'absence et tout ça. Alors qu'on disait oui, dans certains cas c'est ça, mais dans beaucoup de cas il y a des pères présents, aimants, engagés. De plus, dans notre société, on souhaite le partage des tâches, on souhaite l'égalité entre les pères et les mères. Donc là, ça devient juste une question de cohérence. Si on veut que les pères soient présents, soient engagés, il faut les reconnaître, il faut les valoriser, puis il faut que nos politiques publiques et nos services soient accordés en conséquence. Là.
Avec la firme Léger, vous avez décidé de réaliser un sondage, c'est bien ça, auprès de 574 pères. Donc, il y avait énormément de gens qui étaient là pour participer à ce sondage-là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les réponses?
Ben écoutez, il y a plein de choses. La première chose que je vous dirais, c'est qu'on voit que le visage de la séparation évolue. Un truc peut-être qu'on réalise pas, c'est que 56% des pères nous ont dit qu'ils étaient en garde partagée et 11% en garde exclusive. Donc, on est loin de l'image des années 80-90 du papa de fin de semaine, là. Donc, de plus en plus, quand les parents se séparent au Québec, on a des gardes partagées.
Je vais ajouter, papa de fin de semaine, mais aux deux semaines. Donc, un père voyait
tout
ses enfants deux jours. Une fin de semaine sur deux, c'était atroce, j'imagine, à cette époque-là pour les pères. Moi, je suis séparé de la mère de mes gars. C'est une super de belle séparation parce qu'on est encore les meilleurs amis du monde. Puis nous, on n'a pas de... En fait, on a une garde partagée, mais on n'a pas de jours bien précis.
Mais
là.
Par votre entente. Mais ça reste que des parents peuvent bien s'entendre puis que cet encadrement-là puis cette planification-là a aidé
dans. Des fois, ils sont avec moi trois jours. Des fois, ils sont avec moi quatre jours par semaine. semaine, mais on a la chance, du moins, d'être des partenaires d'enfants.
Mais rendu là, j'appelle ça un choix.
Responsable.
J'appelle ça un choix. Puis, tu sais, même si un a été moins bon que l'autre ou l'aliénation parentale, c'est jamais la solution. Les seuls qui payent, c'est les enfants.
Ouais. Puis le deuxième élément important, tout à fait dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est que 68% des pères nous disent que ça s'est bien passé ou très bien passé.
Ça, c'est ahurissant, mais positivement, là.
Ben oui, c'est ça. Mais on a toujours l'image, dans le fond, que ça va toujours mal. T'sais? Puis c'est sûr que c'est souvent c'est les mauvaises nouvelles qui font les manchettes, on le sait bien. Mais dans deux tiers des cas, c'est pas juste notre sondage qui dit ça. Là. Ce qu'on voit vraiment, c'est dans deux tiers des cas, ça s'est bien passé. Oui, ça a été un choc. Hein, quand une relation amoureuse se termine, c'est toujours difficile. Il y a une période de transition, 2-3 ans. Mais dans les deux tiers des cas, ça va bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un tiers où ça va moins bien. Puis dans ce tiers-là, il y a comme un 10% qui est très, très conflictuel. Tu vois, c'est le 10% dont on entend parler toujours, mais c'est juste un 10%. Ça fait qu'il faut remettre les choses en perspective. Dans la majorité des cas, ça se passe relativement bien, puis c'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui, c'est 60% des pères qui indiquent dans votre sondage qui parviennent à s'entendre avec l'autre parents en cas de différend. Je trouve que c'est pas représentatif de moi ce que j'entendais dans les années 80 ou 90, où bien souvent c'était la guerre à n'en plus finir. Là, je pense que les gens sont capables de se jaser maintenant. Il y a moins de dépendance aussi qu'il y en avait. Dans les années 70, 80, 90, il y avait plus de dépendance financière. Là, maintenant, la femme gagne le même salaire que l'homme, donc il n'y a plus cette dépendance-là. Les gens attendent plus trop longtemps avant de se séparer. Les gens se séparent quand c'est le temps avant que la guerre poigne.
Puis j'ai l'impression que l'autre truc qui a changé, écoutez, moi j'ai 60 ans, fait que j'imagine un peu plus vieux que vous, mais quand j'étais jeune à l'école secondaire, puis il y avait un jeune dans notre classe dont les parents se séparaient, on était tous jetés en bas de notre chaise. C'était comme ça se peut pas, c'est toute notre construction là qui tombait en morceaux, puis on était complètement troublés. Maintenant, ce que les chiffres nous disent, c'est que tu as 40% des enfants qui vont voir leurs parents se séparer avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est vraiment un autre paradigme. C'est comme si le sens même de la séparation change. Avant, c'était comme un échec total, c'est épouvantable, c'est la fin du monde. Puis maintenant, on se dit, ben ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit plus ensemble. Ça veut pas dire qu'on va pas pareil s'occuper de notre enfant. Mais donc, dans l'esprit de la jeune génération, ils voient pas nécessairement la séparation comme on le voyait avant. Ouais. Fait que ça aussi, ça change. Puis ça aussi, il faut en prendre acte, là, comme société.
Mais ça reste que c'est, en tout cas, de tout ce que j'entends, c'est difficile de mettre une fin à cette relation-là entre adultes, entre parents, parce que tu as l'impression de briser un foyer. Non. Mais vous avez vu à travers le temps les différences, puis j'adore le fait que vous avez été le premier employé, si on veut, du regroupement pour la valorisation de la paternité. Mmh. Qu'est-ce qui vous a poussé initialement à créer ça? C'est-tu parce que, justement, vous voyez qu'il y avait beaucoup d'hommes qui prenaient leurs pieds, qui se sentaient dévalorisés, en détresse dans cette position-là, qui est un petit peu à l'écart de la femme dans une séparation?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais le premier employé, mais il y a deux fondateurs avant qu'il faut que je reconnaisse, Yvon Lemay, Manuel Pratt du quartier Chagas-Maisonneuve, qui ont été bénévoles pendant plusieurs années. Puis moi, j'ai commencé à monter ça. Puis moi, ce qui me touchait profondément comme homme, comme papa, c'est que je sentais que, dans le fond, la contribution des hommes, des pères, les difficultés qu'ils pouvaient vivre étaient insuffisamment reconnues. On sentait beaucoup que, dans le fond, quand on parlait des hommes, des pères, c'est toujours en mal et tout ça. Puis ce discours-là incessant, qui revient tout le temps, qui est encore souvent présent maintenant, il est pas bon pour personne. Il est pas bon pour notre société, il est pas bon pour les hommes, il est pas bon pour les femmes, il est pas bon pour les petits garçons, il est pas bon pour les petites filles. Puis il faut sortir de ça. Fait que c'est pour ça que nous autres, on essaye vraiment de parler des bons coups des pères, l'importance de leur contribution, les difficultés qu'ils vivent. On fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement, les différents ministères, les organisations de services pour dire, écoutez, dans la famille, il y a aussi des papas. Comme je suis toujours en joke, là, moi, ma job, c'est de lever la main puis dire, et les pères, dans tout ça, y avez-vous pensé? La vraie réponse maintenant, c'est qu'en 2024, la plupart du temps, on pense pas aux pères quand on pense aux familles. Fait qu'on n'est pas cohérent avec notre objectif social. Mais en même temps, on veut l'égalité, on veut que les pères s'impliquent, on veut qu'ils fassent 50% de la tâche, mais on les reconnaît pas. Savez-vous, par exemple, que parmi les familles monoparentales, 1 sur 4 est dirigée par un père? Hein? Wow. Ça, on le sait pas. Mm-hmm. Puis ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Vous pouvez trouver le chiffre, là. Il existe partout. Donc, ça veut dire que quand on pense nos services aux familles monoparentales, bon, on est dans une logique mère-enfant. On pense pas au père, etc., etc.
Est-ce que ça n'aide pas
personne, ce genre de pensée-là.
Est-ce qu'avec le temps, M. Villeneuve, les pères se ramassent peut-être un peu moins à la rue? Parce que je sais que, bon, il y avait des trucs là, par rapport aux pensions. Puis le père, des fois, devait payer une super de grosse pension, puis il restait pratiquement rien à la fin de la semaine. Même des fois que le père ne pouvait pas recevoir les enfants à la maison parce qu'il n'y avait pas de nourriture disponible pour les enfants. Est-ce que ça s'est amélioré de ce côté-là? Au niveau du rapport égalitaire?
Bien, écoutez, je vous dirais une réponse en deux temps. D'une part, dans le sondage, on se tente 70 et 80 % des pères qui disent que la pension alimentaire est juste. Donc, encore là, on voit comme notre deux tiers, là, un petit peu des deux tiers où c'est satisfaisant. Mais des cas où le père est étranglé au niveau financier, ça existe encore. Dans les maisons d'hygiène, d'hébergement père-enfant, chez père séparé, à autonomie, dans ces organismes-là, ils voient encore des cas. Puis ce que ça vise particulièrement, c'est les petits salariés. C'est ceux qui n'ont pas les mesures d'aide financière, mais qui sont pas des gros salaires, ceux qui font 30, 40 000 par année. Eux autres, ils peuvent se retrouver en contexte de séparation, vraiment, où comme tout s'accumule. Puis quand tu rajoutes les frais d'avocat par-dessus ça, un moment donné, eux autres, il y en a qui sont vraiment étranglés, là, puis qui en ont par-dessus la tête, là. Fait que ça existe encore. Est-ce que c'est majoritaire? Certainement pas, mais ça existe encore. Donc, ça, c'est un autre angle mort. Tu sais, les pères les plus mal pris en période de séparation, on n'y pense pas dans nos politiques publiques. Dans notre plateforme de proposition, on a aussi des mesures, tu sais, au niveau de l'aide sociale, quand tu as des enfants, là, pour les mères aussi, toutes les barèmes reliées aux enfants sont vraiment très peu élevées. Il y a un autre enjeu aussi, il y a des pères, ceux qui n'ont pas de garde partagée, qui ont moins de 40 % de la garde, ils n'auront pas nécessairement accès à un HLM, par exemple. Ils n'auront pas nécessairement accès non plus à des prestations d'aide sociale en conséquence. Donc, il y a plusieurs angles morts pour les pères les plus mal pris, qui ne sont pas majoritaires, mais quand même, il faut penser aussi à ces pères-là, puis on y pense pas assez souvent.
Ah, juste de se loger avec les particularités que vous avez actuellement sur l'île de Montréal, c'est catastrophique pour se loger. Un père monoparental qui doit payer une pension alimentaire, qui doit se loger, qui doit au minimum avoir une chambre pour lui puis une chambre pour ses enfants. Se trouver un coloc qui accepte tes enfants, ça doit être assez rare.
Au salaire moyen, admettons.
Ah, ouais,
c'est vraiment difficile. C'est pour ça que c'est intéressant, comme vous connaissez les maisons d'hygiène, vous en avez une à Québec.
Oui.
Puis ça, il y en a maintenant, il y a 24 sites au Québec. Puis vous savez que ça, c'est unique au monde, hein? Il n'y a personne dans aucun autre pays sur la planète qui a des services comme ça. Puis les 24 maisons sont toutes pleines, là. T'sais, ça déborde même à ce niveau-là. Donc ça montre qu'il y a un angle mort. Il y a des besoins sociaux souvent qu'on ne voit pas. Il faut être créatif, puis il faut inventer des nouvelles solutions pour soutenir, dans le fond, tous les membres de la famille, les pères, les mères et les enfants.
Monsieur Villeneuve, si on veut en savoir plus sur le regroupement pour la valorisation de la paternité, on vous retrouve comment?
Vous pouvez aller sur notre site Internet, là, vous tapez « Regroupement pour la valorisation de la paternité ». Et si vous voulez avoir les résultats du sondage ou les résultats ou notre plateforme de proposition de politique publique, vous avez juste à taper « Semaine de la paternité ». Vous allez tomber sur notre site Internet.
Un gros merci, M. Villeneuve.
Merci, bonne fin de journée.
Au revoir,
merci.
Raymond Villeneuve, qui est directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité. J'aime beaucoup avoir les chiffres. Tu m'en as parlé un petit peu hier. M. Villeneuve nous en parle aujourd'hui. Ça s'est amélioré. Ouais.
C'est une belle nouvelle.
Qu'on peut avoir des pères qui se sont pris en main, qui ont pris leur rôle de père. C'est pas qu'ils le faisaient pas avant, c'est juste qu'il y avait comme une façon différente de voir la vie. T'sais. Eux travaillaient 7 jours sur 7. La dame, elle, avec le conjoint, avait décidé de rester à la maison. Là, à un moment donné, séparation. La dame tombe avec des problèmes financiers. Elle réclame une pension alimentaire pour que les enfants puissent vivre dans un environnement qui a du bon sens, puis pas dans la grosse pauvreté. Puis l'autre, ben lui, doit refaire sa vie, mais avec énormément moins d'argent disponible. Fait que les gars, ils avaient leurs enfants une fin de semaine sur deux, là. Deux jours sur 14. Là.
Autre temps, autre
mœurs. C'était épouvantable.
Puis un mélange aussi de papa qui ne souhaitait pas avoir ce rôle-là dans la vie, un mélange de maman qui ne voulait pas laisser l'ex-conjoint aussi avoir ce rôle-là dans la vie, un mélange de plein d'affaires, mais les statistiques sont tellement positives que je suis en train de me demander au 88-971-1021, tu sais, qu'est-ce qui vous reste encore à considérer, les hommes, dans votre séparation? Où est-ce qu'il y a encore un angle mort? J'aimerais ça le savoir, moi.
C'est une bonne question. Par texto, 88-971-1021, on fait une courte pause, on vient. Boulevard 1021.